il y avait eu des poursuites et des condamnations de négationnistes sur base de cette loi générale. En particulier, a été cité dans le cadre des travaux parlementaires l'affaire Olivier Mathieu, qui était un personnage assez original, peut-on dire, et qui avait entre autres activités le fait de faire des conférences dans lesquelles il tenait des discours antisémites et négationnistes assez caractéristiques. Et pour un discours qu'il avait d'ailleurs tenu à l'ULB, il s'était fait condamner en 1991 sur base de cette loi sur l'incitation à la haine raciale. Mais les parlementaires estiment que ce n'est pas suffisant, qu'il faut appréhender de manière beaucoup plus spécifique le négationnisme, parce que tous les cas ne correspondent pas nécessairement au cas assez caricatural d'Olivier Mathieu, et que souvent le négationnisme prend des voies nettement plus subtiles, se masquant derrière des discours pseudo-scientifiques. Donc il y a donc cette volonté d'activer de manière spécifique le juge pénal pour appréhender le phénomène du négationnisme. En même temps, on écarte et donc on désactive le juge pénal pour appréhender des discours qui pourraient remettre en cause d'autres événements que la Shoah. On examine par exemple le cas des génocides arméniens ou du génocide rwandais, et on se dit qu'au moment où on envisage la loi, il n'y a pas de nécessité de pénaliser spécifiquement ces négationnistes. Donc il y a aussi une sélection qui est opérée d'activer le juge pénal pour certains discours visant la Shoah, mais pas pour d'autres discours visant d'autres massacres de masse. Dans le même temps, et donc de manière assez paradoxale, le législateur va s'employer à limiter au maximum le pouvoir d'appréciation du juge dans l'appréhension de cette incrimination de négationnisme. Il va à cet égard partir de deux prémices. La première est, selon lui, la difficulté qu'il y a d'établir la preuve des intentions racistes qui se cachent derrière les discours négationnistes. Donc, ça va partir du constat que très souvent ce sont des discours pseudo-scientifiques, et donc il sera très difficile d'établir pour le juge une intention raciste sous-jacente. Et deuxième prémisse, c'est le fait que les parlementaires considèrent qu'il n'incombe pas au juge de, je cite, « porter un jugement sur l'histoire ». Donc on veut écarter du champ d'appréciation du juge l'appréciation des faits historiques, l'évaluation donc entre le discours et les faits qui sont concernés. Quelles sont les conséquences de ces deux prémices? Tout d'abord, on ne va pas inscrire dans la loi la nécessité d'établir une intention particulière pour pouvoir condamner quelqu'un pour discours négationniste. Donc il y a en réalité une présomption pratiquement irréfragable d'antisémitisme ou de racisme sous-jacent lorsque est tenu un discours négationniste. Donc on ne demande pas au juge de s'intéresser aux intentions ou à la volonté de l'auteur du discours. La simple matérialité du discours suffit pour incriminer ce discours. Et deuxième élément, pour éviter que le juge ait à s'intéresser aux événements qui feraient l'objet de contestation, s'intéresser à l'histoire, on va partir du principe que l'on va devoir définir de la manière la plus objective et la plus précise possible l'incrimination et en particulier l'événement qui ne peut être contesté, en l'occurrence ici la Shoah. Et donc il va falloir essayer de définir de la manière la plus précise à la fois le comportement qui est visé et également l'événement qui ne peut être contesté. S'agissant de cet événement, il va y avoir des discussions. Dans un premier temps, on va vouloir plutôt s'inspirer de la loi Guesso de 1990, qui était une des premières lois à avoir pénalisé le négationnisme en Europe et qui avait opéré la définition des événements par un renvoi au jugement du tribunal de Nuremberg. Finalement, en Belgique, on va opter pour une autre solution et on va nommer de manière plus directe l'événement concerné et on va donc viser le génocide commis par le régime national-socialiste allemand pendant la Seconde Guerre mondiale. Et donc on a voulu finalement viser de manière assez précise un événement en écartant par exemple tout ce qui précède la guerre, les actes de persécution qui ont pu viser les Juifs avant la guerre ou des actes qui ne seraient pas commis par le régime national-socialiste allemand par exemple. Les actes commis par le régime de Vichy de prime abord tomberaient hors du champ de la loi. Deuxième élément, il s'agit de définir précisément le comportement qui est concerné, et il s'agit, le comportement qui est visé consiste à nier ou minimiser grossièrement le génocide. Alors nier de prime abord, ça semble assez simple, donc il s'agirait de nier de manière très globale l'existence même du génocide. Quant au comportement consistant à minimiser grossièrement, Là, l'expression est utilisée pour permettre au juge de faire la distinction entre un discours strictement scientifique et historique qui pourrait être amené à réévaluer certains événements caractéristiques de la Shoah et un discours pseudo-scientifique animé par une mauvaise foi et qui viserait à remettre en cause radicalement des éléments caractéristiques de la Shoah, sans remettre forcément en cause tout à fait globalement la Shoah elle-même. Alors, par cette méthode, le législateur pense pouvoir répondre à deux soucis. Tout d'abord, il pense que cela permet, de manière finalement très objective pour le juge, de constater et de faire la différence entre ce qui est un discours négationniste et ce qui ne l'est pas, ce qui est un simple discours scientifique. Et une fois que ces éléments sont établis objectivement, cela permet donc d'anticiper, de présumer l'intention raciste. Et donc, ça permet de justifier la loi sur le plan de la liberté d'expression, dès le moment où, très clairement, si objectivement on a un discours négationniste, c'est qu'on est animé d'intentions racistes, donc il y a une légitimité pour la loi et pour apporter une limitation à la liberté d'expression. Mais tout ça relève très largement de pétitions de principe en réalité. Lorsqu'on va constater et vérifier comment la loi est appliquée plus concrètement et comment elle est mise à l'épreuve des faits tirés de la réalité, on va voir que les choses sont nettement plus complexes et que le système mis au point par le législateur ne tient pas la route. Tout d'abord, c'est la Cour d'arbitrage qui a été amenée à se prononcer sur cette loi puisqu'il y a eu deux recours en annulation qui l'ont visé pour violation notamment de la liberté d'expression. Et pour légitimer la loi, la Cour d'arbitrage a bien été obligée de très largement revenir sur cette limitation du pouvoir d'appréciation du juge qui avait été élaborée par le législateur. Il a dû donc réactiver très largement ce pouvoir d'appréciation en disant que, certes, si la volonté raciste n'avait pas été inscrite dans la loi, le juge pourrait néanmoins la rechercher pour vérifier si on est bien en présence d'un discours négationniste ou pas. Donc ce sera ça le critère qui va permettre de départir des cas plus limites. On va devoir vérifier s'il y avait bien une volonté ou non de porter atteinte à la mémoire des victimes de la Shoah ou une volonté de réhabiliter le régime nazi. Et puis, dans l'application donc, de ce concept de nier, de minimiser grossièrement, la Cour d'arbitrage va dire que là, le juge va avoir un très large pouvoir d'appréciation pour envisager ce qui va tomber sous le coup de la loi. Donc là, c'est en fait un retour en arrière qui va être opéré par la Cour d'arbitrage qui va très largement insister sur le fait qu'en réalité, le juge va avoir un très large pouvoir d'appréciation et spécialement aussi dans l'appréciation de la mise en cause de la liberté d'expression. La Cour d'arbitrage va dire qu'en réalité, ça se fait au cas par cas. On ne peut pas présumer que dans tous les cas où, a priori, la loi pourrait s'appliquer, la limitation serait justifiée. C'est par le pouvoir d'appréciation du juge au cas par cas qu'il va pouvoir évaluer la balance à faire entre à la fois le souci d'éviter les discours négationnistes et la préservation de la liberté d'expression. Alors, je vais illustrer ça avec l'examen de trois affaires qui permettent de montrer que la réalité est bien plus complexe que la conception qu'a pu s'en faire le législateur belge et que donc de nombreuses affaires posent des très délicates questions d'interprétation et de mise en œuvre qui supposent un très large pouvoir d'appréciation et même qui mettent en cause la conception même de la loi. Tout d'abord, il s'agit de l'affaire qui oppose Bart de Wever à Pierre Mertens. Alors, cette affaire n'a pas été soumise directement au juge pénal sur base de l'infraction du négationnisme, mais sur base de la diffamation. En réalité, c'est Pierre Mertens, écrivain belge bien connu, qui a traîné dans une tribune du Monde Bart de Wever de négationniste. Et ça n'a pas plu à Bart de Wever qui lui a intenté une action en diffamation. Et l'action est toujours pendante, même si on pense plutôt qu'elle va être classée sans suite pour des raisons plutôt procédurales. Mais ce n'est pas ça qui est important. Et Pierre Mertens a précisé sa pensée plus récemment, en mai 2011, dans une carte blanche au Soir, en disant les raisons plus précises pourquoi il considérait que Bart de Wever était un négationniste. Ça renvoie à un événement qui s'est déroulé en 2007. Le CGS, qui est un centre historique, avait établi un rapport, à la demande d'ailleurs du Parlement, sur l'implication des autorités belges dans la persécution des juifs pendant la Seconde Guerre mondiale, et ce rapport mettait en lumière une collaboration assez accrue, assez importante de la part des autorités anversoises dans la persécution des juifs d'Anvers. Suite à cela, le maire d'Anvers a présenté des excuses au nom d'Anvers à la communauté juive d'Anvers. Et Bart De Wever a critiqué ces excuses en les qualifiant de purement gratuites. Donc c'est sur base de cette affirmation que Pierre Mertens considère que par cette déclaration, Bart De Wever a minimisé grossièrement un aspect de la Shoah qui serait l'implication des autorités anversoises dans la persécution des juifs. Alors si un juge était effectivement saisi de l'affaire et devait se prononcer, il devrait examiner si les propos de M. De Wever tombent effectivement sous le coup de la loi de 1995, et c'est bien à cette loi que Pierre Mertens s'est d'ailleurs référé. Alors ça pose toute une série de questions assez délicates. Tout d'abord, quelle est la portée exacte des propos de M. De Wever lorsqu'il dit que les excuses sont gratuites? Est-ce qu'il veut véritablement remettre en cause l'étendue de la collaboration des autorités anversoises? Est-ce que le rapport du CEGES, lorsqu'il établit l'étendue de cette responsabilité des autorités anversoises, est-ce qu'il est absolument incontestable? Est-ce que donc le fait même de les contester relève du négationnisme? Est-ce que lorsque l'on parle de la collaboration des autorités anversoises, on vise bien le génocide commis par le régime national socialiste? Donc est-ce que on tombe bien donc dans le champ de la loi, puisque la loi ne vise que la remise en cause du génocide commis par le régime national socialiste et non pas commis par les autorités, d'autres autorités. Donc on voit qu'il y a énormément de questions qui vont nécessairement amener le juge à exercer un large pouvoir d'appréciation et même à devoir se pencher sur les faits et les événements qui sont concernés par l'affaire. Deuxième exemple. Il s'agit de l'affaire Assibil qui visait un centre islamique qui avait développé un site internet et dans lequel on trouvait toute une série de discours extrêmement problématiques qui visaient les juifs. De manière plus particulière, on y trouvait une vidéo qui traçait un parallèle entre la politique du gouvernement israélien et le régime nazi. Et une plainte est faite par une association et par le Centre pour l'égalité des chances. Et l'un des fondements juridiques de la plainte est la loi sur les négationnismes. Alors, le juge de première instance a considéré que tracer un parallèle entre le gouvernement israélien et le régime nazi relevait effectivement du négationnisme parce que ça banalisait les crimes nazis. Alors, en appel, la cour d'appel a totalement révisé le jugement et a considéré qu'en réalité, la portée de ce parallèle ne consistait pas à remettre en cause les horreurs et la barbarie nazie, au contraire, ça les soulignait, mais que ça visait finalement à exagérer les crimes commis par Israël, il s'agissait plus spécialement de la guerre du Liban. Et donc, elle a considéré que ça ne tombait pas dans le champ de la loi sur le négationnisme. Donc, cet exemple montre à nouveau qu'on peut finalement vouloir faire tomber sous le coup de cette loi finalement des discours qui sont très éloignés de ce qu'avait en tête le législateur en 1995, c'est-à-dire le discours négationniste classique du type Faurisson, et que des associations ont voulu y faire entrer des choses qui sont très largement différentes, et que le juge doit faire une appréciation des événements, des faits, du type de discours, et donc il a un très large pouvoir d'appréciation. Et enfin, dernière affaire. Là, je vais l'emprunter à la jurisprudence française, mais les problèmes qui sont soulevés sont assez similaires. Ce sont les poursuites qui ont visé Bruno Gollnisch, qui était à l'époque le numéro 2 du Front National. Il était poursuivi pour plusieurs déclarations qu'il avait faites lors d'une conférence de presse, et en particulier deux déclarations que je vais citer. Première déclaration. Il n'y a aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg. Je pense que sur le drame concentrationnaire, la discussion doit rester libre. Sur le nombre de morts, sur la façon dont les gens sont morts, les historiens ont le droit d'en discuter. L'existence des chambres à gaz, c'est aux historiens d'en discuter. Donc, sur cette déclaration-là, le juge de première instance et d'appel ont considéré que, en renvoyant finalement à une discussion entre historiens l'existence de la Shoah et des chambres à gaz, insidieusement, Bruno Gollnisch tenait un discours négationniste, laissant entendre que finalement les faits ne seraient pas aussi bien établis que cela. Deuxième déclaration, il n'existe plus aucun historien sérieux qui adhère intégralement aux conclusions du procès de Nuremberg. Cela ne fait pas de moi l'apologiste des crimes indiscutables commis par le national-socialisme au cours de la Seconde Guerre mondiale, régime pour lequel ni moi ni mes amis n'avons eu jamais la moindre sympathie. Le nombre effectif de morts, les historiens peuvent en discuter. Donc là, à nouveau, le juge a considéré, le juge de première instance et d'appel, ont considéré que, en disant que les historiens devaient discuter du nombre de morts, là aussi, implicitement, il y avait une remise en cause du chiffre généralement établi de 5 à 6 millions de morts, et que la référence qui était faite au caractère discutable des conclusions de procès de Nuremberg était faite par une référence qu'il a tenue par ailleurs, qui n'était pas clairement établie, mais que le juge a pris en considération, une référence au massacre de Katyn, alors que le massacre de Katyn n'avait pas fait l'objet des conclusions du tribunal de Nuremberg. Donc le massacre de Katyn, c'était l'accusation par le procureur soviétique de la responsabilité nazie dans le massacre de milliers d'officiers polonais à Katyn. Il s'est avéré qu'en réalité, c'était les soviétiques qui avaient commis ce fait. Et donc, en laissant entendre que le tribunal de Nuremberg s'est trompé sur ces massacres, il voulait remettre de manière beaucoup plus générale en cause les conclusions du tribunal de Nuremberg. Alors, la Cour de cassation, saisie de la question, a cassé sans autre forme de procès les conclusions des juges de première instance et d'appel. Les juges de première instance et d'appel, en considérant que d'aucune manière les déclarations de Bruno Gollnisch ne pouvaient tomber sous le coup de la loi Guesso, en l'occurrence. Donc, à nouveau, cette affaire montre que dans de nombreux cas, il y a un très large pouvoir d'appréciation qui va devoir être exercé pour apprécier le discours, qu'en l'occurrence, on voit qu'on est obligé d'entrer dans une discussion assez précise sur quel est le statut des massacres de Katyn dans l'acte d'accusation de Nuremberg, quelles ont été les conclusions du tribunal, que peut-on en tirer sur la validité des travaux du tribunal, etc. Et donc le juge est forcément obligé d'entrer dans des discussions qui portent à la fois sur le discours lui-même et sa portée, sur la volonté sous-jacente dans le discours et sur la caractéristique des événements dont il est question. Enfin, et pour en terminer par là, puisqu'il me reste 1 minute 30, j'examine très rapidement sur le principe, et on pourra y revenir plus tard, le retour de balancier, si je puis dire, qui est opéré plus récemment par le législateur lorsqu'il s'agit d'examiner des projets d'élargissement de l'incrimination de négationnisme. Donc plus récemment, dans les années 2000, à partir de 2005, on a examiné la possibilité d'élargir l'incrimination pour l'étendre à d'autres événements ou même à d'autres situations catégorisées, caractérisées de manière générique. Et dans cette définition d'autres événements qui ne pourraient pas faire l'objet de contestation, les législateurs, alors que ce soit le législateur belge dans un projet qui finalement n'a pas abouti, ou les législateurs européens au sein du Conseil de l'Europe et puis au sein de l'Union européenne, à qui ont-elles fait appel ? Eh bien, aux juges. Quels seront les événements qui ne pourront plus être contestés ? Des crimes qui auront été décrétés comme tels, des crimes de masse, crimes de guerre, crimes contre l'humanité, crimes de génocide, qui auront été constatés par un juge international ou par un juge national. Donc là, on donne au juge un rôle absolument extraordinaire de quasi-législateur qui consiste à définir, lui, quels sont les événements qui ne pourront plus être contestés par la suite. Et pour rebondir sur l'intervention de Martina hier, avec le juge des tribunaux pénaux internationaux activateur, contre son gré d'ailleurs, enfin sans qu'on lui ait demandé son avis, on lui donne un rôle d'activateur d'incrimination du négationnisme. Srebrenica, le TPI a dit que Srebrenica était un génocide. Eh bien, demain, plus personne ne pourra dire que Srebrenica n'était pas un génocide. Donc, en conclusion, ce que l'on peut constater tout d'abord, c'est que le législateur s'est fait une vision totalement réductrice de la complexité de la réalité et du rôle du juge. Il a un raisonnement assez binaire, finalement. Il y a le discours négationniste, le discours scientifique. Il est relativement aisé de faire la distinction entre les deux. Et donc, il n'y a pas de problème quant à l'incrimination du négationnisme et sa mise en œuvre. Il y a donc, à ce point de vue, un paradoxe entre le point de vue qui consiste à considérer que finalement les faits vont relever de l'évidence. Hein, souvent, c'est ce qui revient dans le discours du législateur. Le discours du négationniste est assez évident et les faits dont il s'agit de protéger contre la négation sont eux-mêmes évidents. On voit que la réalité aurait été beaucoup plus complexe et que toute une série de situations peuvent surgir qui vont mettre en cause cette vision. Et puis donc on a cette retour tout à fait paradoxal du juge dans les projets plus récents avec l'attribution au juge là d'un rôle de quasi-législateur à qui serait dévolu le rôle de définir des faits qui deviennent incontestables du jour au lendemain parce qu'un jugement est adopté. Et bien entendu, cela pose toute une série de problèmes sur lesquels je n'ai pas le temps de m'étendre, dans la définition même de l'incrimination et au regard du principe de l'égalité du droit pénal et la préservation de la liberté d'expression. Je vous remercie.
Merci beaucoup François pour cet exposé très riche sur les zones d'ombre des lois incriminant le négationnisme et surtout désolé d'avoir dû raccourcir ton exposé. Mais donc comme je le rappelle, la règle de ce colloque c'est que les exposés durent plus ou moins 15 minutes pour laisser à la salle le temps de discuter avec les intervenants.